Bonjour à tous. Au Québec, nous avons hérité de valeurs judéo-chrétiennes. On essaie quand même de se démêler dans tout ça. Il y a eu une intention récemment de faire une charte des valeurs québécoises. Mais c'est que nos valeurs, tranquillement, s'estompent. Certains croient que c'est à cause de l'ouverture mondiale, à cause de la mondialisation. On a accès à toutes les cultures, toutes les religions. Et on veut essayer de tirer ce qu'il y a de bon dans tout cela. Mais ça devient un effort individuel de juger de ce qui est bien, de ce qui est mal. On se repose sur notre logique, sur notre bon sens. Quand je dis « on », je parle en général de la société. Mais qui a raison? Qui a tort? Et parfois, par manque de temps, on va simplement se fier à ce que la majorité pense, ce qui est bien, ce qui est mal. Comment on peut juger de ce qui est bon, de ce qui est mal? Comment on peut juger de quelles sont les bonnes valeurs? Ou pas. Mais le récit qu'on étudie, on est toujours dans la Genèse. Ça se passe après le déluge, après que Noé et ses fils, sa femme, ses belles-filles soient sortis de l'arche, qu'il ait offert un sacrifice à Dieu. Ce récit va nous montrer qu'il y a peut-être plusieurs nations. C'est vrai qu'il y a un monde très diversifié. Mais il y a un seul Dieu. Il y a un seul plan pour toute l'humanité. Je vous invite à tourner avec moi dans Genèse, chapitre 9, verset 18. Donc, on va terminer le chapitre 9. Ensuite, on va entamer le chapitre 10. Alors, Genèse 9, verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japhet. Cam fut le père de Canaan. Les trois fils de Noé repeuplèrent la terre. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, il s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules et marchèrent à reculons. Et ils couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères. Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave, que Dieu mette Japhet au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Noé vécut encore 350 ans après le déluge. La durée totale de sa vie fut de 950 ans. Puis il mourut. Noé était un homme de foi. Comme on l'a vu, il a prouvé même sa foi par son obéissance, son attitude sans reproche, son comportement juste. Il est écrit même qu'il marchait avec Dieu. C'est la même expression qui a décrit le comportement d'Enoch qui a été enlevé aux cieux. Noé était un homme selon le cœur de Dieu. Il a même obtenu la faveur de Dieu. Il a été le seul, avec sa famille, à être épargné du jugement de toute la terre, de la destruction par le déluge. Puis même après le déluge, on a vu qu'il n'a pas été ingrat. La première chose qu'il a faite, ça a été un sacrifice de reconnaissance à son Dieu, une consécration à l'Éternel. Puis cet homme a plu à l'Éternel, au point où même l'Éternel, à cause de ce sacrifice-là, suite à cela, l'Éternel a fait une alliance avec le monde, avec la planète. Grâce à Noé, la terre est sous la protection de Dieu, et plus jamais elle ne sera détruite par l'eau, par les eaux du déluge. Et même Noé est cité ailleurs dans la Bible à plusieurs reprises comme étant un homme de foi, un homme fidèle, de justice. Mais ici, ces quelques versets suffisent à nous, à ternir son image. Ces versets nous montrent Noé dans une situation honteuse. Donc, il n'était pas parfait. On ne sait pas combien de temps qu'il s'est écoulé avant cet épisode-là où Noé s'est enivré. Mais pour que Noé ait le temps de cultiver le sol, qu'il plante une vigne, qu'il puisse en récolter les raisins, qu'il puisse boire le fruit de la vigne, ça a dû prendre quelques années quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà planté une vigne. Peut-être des experts ici. Ça prend quelques temps. Ça prend 3 ans pour avoir des raisins. Bon, ça prend du temps. Mais même, on voit dans le verset précédent que Cam, il est écrit que Cam fut le père de Canaan. C'est peut-être juste une indication parce qu'on va voir l'importance de Canaan. Mais peut-être qu'on peut comprendre aussi l'ordre chronologique que même son fils avait eu le temps de mettre au monde un autre fils là, qui s'appelait Canaan. Il s'est peut-être passé du temps. Par l'expression « Noé se mit à cultiver le sol », si on traduisait littéralement, c'est écrit « Noé commença ou recommença » à être un homme de la terre. Donc, on en déduit qu'il cultivait le sol, mais il a recommencé à être un homme de la terre. Il a recommencé à être un homme qui a vaqué à ses occupations. Il était sur la terre, il a recommencé à vaquer, à faire son travail. Il avait peut-être oublié, à ce moment-là, d'être sur ses gardes face à la tentation du péché. Le monde venait d'être purifié. Il était seul avec sa famille. Il avait été sauvé. Il pouvait repartir à zéro. Peut-être qu'il a levé sa garde un instant. Surtout qu'enfin, il était en paix. On ne sait pas combien de temps a duré la construction de l'arche, mais depuis le jour où Noé a reçu la révélation de Dieu qu'il allait détruire le monde, il s'est écoulé 100 ans, où Noé a été un prédicateur de justice, mais où on peut s'imaginer qu'il a subi la moquerie des gens, peut-être la persécution. Mais là, enfin, il trouvait la paix. Enfin, il pouvait vivre seul avec sa famille, servir son Dieu. Il n'était plus avec des pécheurs qui se moquaient de lui, qui ne partageaient pas sa foi. Enfin, il était libéré de la pression de la population environnante, la pression du monde. Puis il vivait sous la bénédiction de Dieu. Il pouvait cultiver le sol. Puis peut-être qu'il avait oublié la pression qui pouvait venir de son propre cœur, qui était disposé au mal. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il n'allait plus tout détruire, la terre, parce qu'inévitablement, s'il suivait le même comportement que d'avant le déluge, Dieu allait inévitablement redétruire la terre par le déluge, parce que Dieu dit que l'homme, le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse, et ça incluait Noé. Mais peut-être que Noé, un instant, a arrêté de veiller, d'être sur ses gardes. Le vin, ici, n'est pas présenté comme une mauvaise chose en soi. Il dit qu'il but du vin, il s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Le vin, en soi, n'est pas présenté dans la Bible comme une mauvaise chose en soi, le produit lui-même. Même on voit dans Deutéronome 14, il dit « Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom. Tu mangeras la dîme de ton blé, de ton vin nouveau. » Ou dans d'autres traductions, de ton mou, de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Ça fait partie des bénédictions de Dieu pour lesquelles on peut rendre grâce. Dans le Nouveau Testament aussi, on voit des indications que le vin n'est pas mauvais. Dans 1 Timothée 5, 23, Paul s'adresse à Timothée. Il lui dit « Cesse de boire uniquement de l'eau. Fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Et on voit même que Jésus a changé de l'eau en vin aux noces de Cana et qu'il en a bu lui-même, même lorsqu'il a institué le repas du Seigneur. C'était avec du pain et du vin. Mais même les bonnes choses du monde, lorsqu'on en abuse, même les fruits de bénédiction de Dieu peuvent être une tentation pour celui qui ne prend pas garde à son propre cœur. Ce n'est pas les choses extérieures qui nous souillent, c'est notre cœur qui nous souille. C'est le mauvais usage qu'on fait des choses que Dieu a nous pourvoit. Et c'est ce qui a causé la honte de Noé, c'est d'avoir abusé du vin, de s'être enivré, de s'être saoulé en québécois. Dans 1 Corinthiens 6, 12, il dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Bien, l'alcool en particulier, si on se laisse aller, si on ne fait pas attention, peut nous asservir, peut devenir notre maître, peut nous contrôler. On le voyait ce matin, justement, dans l'étude qu'on fait dans le cours d'Éphésiens. Ça peut être un peu redondant pour ceux qui étaient là, mais ça reste édifiant. Dans Éphésiens 5, 18, il est dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » C'est de s'enivrer qui est de la débauche. Et c'est valable à toutes les époques. D'ailleurs, ça fait partie d'un comportement d'un chrétien irréprochable que de ne pas s'enivrer. On voit dans la description de ce que doit être un ancien ou un évêque. Dans 1 Timothée 3, il est dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Et là, il y a toute une liste de choses. Et entre autres, qu'il ne soit pas adonné au vin. Dans 1 Timothée 3, 20, les diacres, pareillement, donc tout serviteur dans l'Église, les diacres, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin, et etc. Mais le vin fait partie de la liste, les excès de vin. Dans Tite 2, les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin. Puis même si on ne tombe pas soi-même, notre comportement, notre usage qu'on fait du vin face à ceux qui nous regardent peut faire tomber peut-être d'autres qui ont une difficulté avec cela. Même si nous-mêmes, on n'a pas une difficulté et on arrive à se maîtriser, si on est en face de quelqu'un qui a une faiblesse au niveau de l'alcool, on peut le faire tomber. C'est ce qui amène Paul à dire dans Romains 14, 21, il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui pour ton frère est une cause de chute. Si tu sais que ton frère devant toi va chuter, parce qu'il a déjà été alcoolique, par exemple, et que tu bois devant lui sans te soucier de lui, tu pèches en faisant cela. Et il est bien de s'abstenir, même d'une bonne chose, pour le bien de son frère. Mais le vin de toutes les époques a été une cause de déchéance. Et on le voit dans toutes les cultures. Lorsque la société s'enfonce au plus creux, il va y avoir des péchés sexuels qui vont sortir de là, de l'idolâtrie, mais c'est toujours lié aussi à la débauche au niveau de l'alcool, la consommation d'alcool. C'est quoi le grand mal au niveau du péché? C'est quoi la conséquence lorsqu'on s'enivre, le péché de l'alcool? Lorsqu'on s'enivre, on se découvre, l'homme se découvre, il découvre ses infirmités, ses faiblesses, il se trahit lui-même. Il se déshonore. Celui qui est enivré peut même parler d'une manière honteuse. Il peut agir d'une manière sans retenue. Habituellement, quelqu'un qui est maître de soi, lorsqu'il est enivré, son mauvais caractère va ressortir. Sa retenue va tomber. Il va faire des choses qu'il regrette, qui n'est pas digne de son Dieu. Il peut agir d'une manière qu'il n'aimerait pas se voir le lendemain sur YouTube si quelqu'un l'a filmé. Et ça arrive souvent dans les parties de bureau, dans les fêtes de bureau, les fêtes de Noël, où est-ce que là, c'est comme si on a une excuse. Tous les gens qui se réunissent, tout le monde boit, donc c'est pas trop grave, le standard a baissé pour tout le monde. Mais il ne faut pas qu'il y en ait un qui ne boit pas, lui, il va casser le party, là. Mais tout le monde boit, les standards baissent, parfois même au point où les gens ne se souviennent même pas de ce qui est arrivé. Mais il va se commettre de graves choses. Il faut même faire attention dans nos fêtes familiales, de ne pas baisser la garde. Le problème, lorsqu'on s'enivre, c'est que l'alcool prend le dessus sur nous, nous contrôle, et notre résistance aux tentations diminue. Notre capacité à résister diminue. Dans Éphésiens 5, 18, qui commençait par « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche », le verset se termine « Mais soyez remplis de l'Esprit ». Galates 5, 19 à 21 dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire, et là, Paul va lister toutes sortes de choses qui sont les œuvres de la chair, entre autres, l'ivrognerie. Mais il termine cette section-là en disant « Mais le fruit de l'Esprit est... » Et vous connaissez dans Galates 5, 22, il y a toute une liste de choses qui composent le feu de l'Esprit. Entre autres, la maîtrise de soi. Quelqu'un qui se laisse emplir par le Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui le contrôle, va être capable d'être maître de lui-même. Parce que le Saint-Esprit ne nous contrôle pas comme une marionnette. Il nous rend capable de se maîtriser. Il nous rend capable de résister aux tentations, d'être maître de soi-même. Lorsque ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous remplit, et c'est une autre chose, bien, elle nous asservit. et on perd la capacité d'être maître de soi-même. On agit comme si on était encore esclave du péché. Tout ce qui nous fait perdre la maîtrise de soi-même est mauvais. Pour certaines choses, lorsqu'on en abuse, et pour d'autres même, dès le premier usage, c'est mauvais. La drogue nous fait perdre le contrôle. La drogue va nous changer notre façon de penser, va transformer notre personnalité. Toute drogue, en partant, on peut dire que c'est mauvais. D'autres choses sont plus sournoises. La loterie peut prendre le dessus sur nous, les jeux de hasard. Ça peut devenir incontrôlable. Quelqu'un peut flamber tous ses revenus là-dedans, toutes ses économies. Le sport peut prendre le dessus sur nous. Les jeux vidéo, ça a l'air banal, mais ça va contrôler la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Les appareils électroniques, certains ne sont plus capables de dormir parce qu'ils ont leur téléphone dans leur lit. Facebook. Et c'est pas seulement les chrétiens qui vont dénoncer les malheurs de Facebook. Des non-chrétiens ont vu des gens se divorcer et avouent que la faute est venue de Facebook. Mais pourtant, en soi, c'est pas une mauvaise chose. Mais on peut très facilement glisser à en abuser et ça peut nous contrôler. On n'est plus capable de résister à aller voir notre compte et à le mettre à jour. Mais ici, le fait que Noé était ivre, mais ça l'a poussé à faire quelque chose qu'il n'aurait jamais fait dans son état normal. Un homme qui marche avec Dieu, qui se déshabille, qui n'a pas honte et qui se couche dans sa tente. Pour beaucoup de gens, et même chez les chrétiens, la nudité est devenue peut-être banale parce qu'on est entouré de nudité. On voit ça partout. Mais ça devrait continuer à nous scandaliser. C'est une chose honteuse. Et la première chose que Dieu a fait pour Adam et Ève, après qu'ils ont chuté, ça a été de leur fabriquer des vêtements pour les couvrir. Depuis la chute d'Adam et Ève, la nudité est honteuse. Puis c'est inné chez nous, là. On le sait dès notre jeune âge, là, que d'être nu, c'est honteux. Mais par la dégénération de la société, la honte s'en va, ça devient normal. C'est partout dans les médias. Et même si Noé était un grand homme de Dieu, un modèle de foi, de justice, il était un pécheur comme nous. Et lui non plus n'était pas immortel, même s'il a survécu au plus grand cataclysme qu'il y a eu à date depuis le début du monde. Il a fini par mourir. Et c'est intéressant de voir que le chapitre se termine par ces mots-là. La durée totale de sa vie fut de 950 ans, puis il mourut. Il était mortel comme nous, avec un cœur de pécheur comme nous. Il a hérité de ce cœur de ses parents. Même si Noé a été en quelque sorte un sauveur pour l'humanité à son époque. Grâce à lui, l'humanité a survécu. Mais ça a été un sauveur temporaire, imparfait et incapable de sauver l'humanité du jugement final qui viendra un jour. Le sacrifice qu'il a offert, même lorsqu'il est sorti de l'arche, a été agréé par Dieu. Ça a amené une paix, une réconciliation, et Dieu l'a approuvé. Mais c'était un sacrifice temporaire. Un sacrifice incapable de couvrir les péchés futurs qu'il allait faire et que toute l'humanité allait faire, que ses enfants allaient faire après lui. Puis lorsqu'il a offert son sacrifice, il était comme le représentant de sa famille lorsqu'il l'a fait. Donc, il était le représentant de toute l'humanité à l'époque, mais ça a été un représentant qui a plu à Dieu, mais temporaire. Ce n'est pas un représentant éternel. Il n'a pas pu rester ce représentant-là, il a fini par mourir. Où j'en viens avec ça, c'est qu'on avait besoin d'un homme plus grand que Noé. Et même si Noé est un homme de Dieu, un sauveur à son époque, et même on peut voir en lui comme une image de Christ qui allait venir, on avait besoin d'un homme meilleur que lui encore pour sauver l'humanité. Et c'est Christ, c'est Jésus, le Messie, qui lui n'est pas mort à la fin de ses jours. Il a vaincu la mort, il a ressuscité. Et lui n'a pas hérité d'un cœur pécheur par ses parents. Il a été engendré par le Saint-Esprit, un cœur pur. Il a été le sauveur éternel, capable de sauver l'humanité du jugement dernier qui viendra, le jugement par le feu qui va détruire la terre, un sauveur qui va pouvoir sauver toute l'humanité et pour l'éternité. Jésus a été capable d'offrir un sacrifice qui a plu à Dieu, mais un sacrifice d'une tellement grande valeur que ça couvrait non seulement les péchés de l'époque, de tous les hommes, mais ça couvre tous les péchés des enfants de toutes les générations. Il a offert lui-même son propre corps, sa propre vie en sacrifice. Puis lorsqu'il a offert son sacrifice, un peu comme Noé, il était le représentant de l'humanité devant Dieu. Il a représenté la race humaine devant Dieu. Mais ça n'a pas été un représentant temporaire, c'est un représentant éternel. Pour l'éternité, il peut être notre représentant. Pour des temps infinis. Donc, devant Dieu, on est toujours bien représenté. Donc, Dieu peut voir tous ceux qui s'identifient à ce représentant-là, toujours d'un bon œil, grâce à Jésus. On peut voir ensuite la réaction de ses trois fils lorsque Noé a chuté, et on peut s'identifier avec la chute de Noé. Nous sommes encore pécheurs. Mais son fils Cam, sa réaction a été différente de ses deux frères. Et on voit que Noé a légué un cœur pécheur à ses enfants. Et Cam en est un bon exemple. Il a regardé son père un peu comme d'un regard frivole. Ce n'est pas très décrit, parce que là, la Bible ne va pas étaler le péché de long en large ici. Là. On peut s'imaginer que Cam s'est moqué de son père. Il a ri de lui. La première chose qu'il a fait, au lieu de chercher à le couvrir, ça a été d'en parler à ses deux frères, d'aller répandre la nouvelle qu'avait vue son père, cet homme de Dieu, nu dans la honte. Il l'a méprisé. Et Dieu n'aime pas cela. On voit un verset un peu parallèle à cela dans Habacuc 2, 15 et 16, où là, il est question d'une nation, mais l'image est bonne. Dieu dit « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton poison et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Tu t'es rassasié de honte plutôt que de gloire. Bois aussi toi-même et mets-toi à nu. La coupe de la droite de l'Éternel retournera vers toi. Honte sur ta gloire. » Dieu a en horreur qu'on se moque et qu'on se rassasie de la honte de quelqu'un qui a chuté. On peut croire parfois qu'un simple regard est banal. Ici, Cam, tout ce qu'il fait, c'est qu'il l'a regardé. Puis même la réaction de Noé peut sembler même démesurée là, lorsqu'il se réveille et il est tellement en colère de ce que Cam a fait. Mais un simple regard n'est jamais banal, sauf s'il est accidentel. Mais l'action de regarder n'est pas banale. Et ça, on le voit dans toute la Bible. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, lors de la destruction de Sodome et Gomorre, la femme de Lot, Dieu avait dit « Vous allez marcher, vous n'allez pas vous retourner. » La femme de Lot est morte simplement parce qu'elle a regardé. Elle a regardé la destruction et elle est morte. Il y a 70 habitants de Beth-Shemek qui sont morts parce qu'ils ont regardé dans le coffre saint, dans l'arche de l'Alliance. Ils ont seulement regardé. Ils sont morts. Dieu a dit à Moïse, « Même tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et heureusement, Moïse n'a pas vu la face de Dieu, il serait mort. Pour Dieu, le regard est important. Ce n'est pas une chose banale. Et Jésus même a dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Simplement de regarder pour convoiter. Mais si non seulement Cam a regardé pour se moquer, mais il a publié la faute de son père. Il a ajouté à sa honte. Il a oublié que son père avait reçu la grâce de Dieu. Et que lui-même, Cam, avait été sauvé lors du déluge à cause que Dieu avait fait grâce à son père. Il a oublié ça, puis il s'est moqué d'un homme qui était sous la grâce de Dieu. En manquant de respect à son père, c'est à Dieu qu'il manquait de respect. Puis il a montré par là qu'il ne l'aimait pas. Il est dit dans Matthieu 18, vous connaissez ce verset, dans Matthieu 18, verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. » Ce n'est pas dit « Si ton frère a péché, moque-toi de lui, puis rends gloire à Dieu de ce que tu n'es pas comme lui, ou publie la nouvelle, va l'annoncer aux autres. » Oui, éventuellement, s'il ne se repent pas, la conséquence est qu'il faut l'annoncer à l'Église. Mais la première réaction, c'est d'aller vers la personne, et en secret, de couvrir sa faute et de l'amener à se repentir. Ton frère qui pêche, c'est quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu. C'est quelqu'un qui est sous la faveur de Dieu. Et si tu te moques de lui, c'est de Dieu dont tu te moques. Cette même grâce que tu as reçue, qui a fait que Dieu t'a pardonné, lui l'a reçue aussi. Il a été pardonné de Dieu. Il est un enfant de Dieu. Un enfant de la plus haute noblesse, de la plus haute famille. Il est tatoué du Saint-Esprit. Il est un co-héritier. Il est un copropriétaire même des terres dans les lieux célestes. Et tu oses te moquer de lui. Pour Dieu, c'est une grave offense. Et même, comme on le disait dans le cours d'Éphésiens ce matin, c'est l'équivalent que de tuer une personne. Aux yeux de Dieu, c'est une atteinte à l'image de Dieu. Et son attitude de calme contraste avec l'attitude respectueuse de ses deux frères, qui l'ont couvert, littéralement couvert, qui ont couvert leur père. Et dans 1 Pierre 4,8, il est dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant. Car l'amour couvre une multitude de péchés. » Pas l'amour, l'amour excuse, ou va tolérer, ou va banaliser le péché, mais il va couvrir pour préserver la réputation de la personne. C'est sûr que le péché doit être dénoncé. Le pécheur doit être pris, mais dans l'amour, en tentant à tout prix de préserver sa dignité, son honneur. Il y a une différence entre quelqu'un qui tombe dans le péché, en plus, et qui vit constamment dans le péché. Notre manière d'aller le reprendre doit être différente. Et en plus, dans la situation dans laquelle se trouvaient Noé et ses fils, il s'agissait de reprendre un père. Et la Bible nous enseigne qu'on doit reprendre un père avec une grande délicatesse. Dans 1 Timothée 5, 1 à 2, il est dit « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, c'est-à-dire pas rudement. Et les jeunes hommes aussi comme des frères, et les femmes âgées comme des mères, et les jeunes femmes comme des sœurs en toute pureté. C'est-à-dire reprends-les sans péché toi-même dans la manière dont tu les reprends. Dénonce le péché, mais sans pécher toi-même, en déshonorant la personne. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé une manière de pouvoir couvrir leur père. Et ils ont été bénis à cause de cela même. Et Noé, c'est la première fois qu'on voit Noé qui parle. Et il maudit Canaan, et il bénit Sam et Japhet. On peut voir ici Noé qui adopte comme le rôle d'un prophète. Il prophétise, dans le fond, sur l'avenir, la descendance de Cam, la descendance de Japhet et la descendance de Sem. Noé a vu dans ses fils quelque chose qui allait diviser l'humanité. Et ce qui a divisé l'humanité, c'était soit d'avoir Dieu, d'avoir l'Éternel pour Dieu, ou de ne pas avoir l'Éternel pour Dieu. Il y a seulement deux catégories là. Tu as l'Éternel pour Dieu ou tu n'as pas l'Éternel pour Dieu. Peu importe le Dieu que tu adoptes, peu importe le code de valeur que tu vas adopter, peu importe la culture dans laquelle tu vis, peu importe les circonstances dans le pays où tu es, la forme de gouvernement, le régime social, peu importe, si tu n'es pas avec Dieu, tu es dans la catégorie de ceux qui n'ont pas l'Éternel pour Dieu. Et en maudissant et en bénissant, bien, il montrait aussi que ce seul Dieu-là allait avoir le sort de toute l'humanité entre ses mains. Noé était en train de dire que les descendants de ses trois fils, leur sort allait être entre les mains du seul vrai Dieu, le seul Dieu de l'humanité. Un seul plan qui englobe tous les hommes, même ceux qui n'allaient pas croire en lui. Personne ne peut se soustraire au plan de Dieu pour l'humanité. Celui qui a l'Éternel pour Dieu, comme Sem est appelé, il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. » Même l'Éternel est le Dieu de Sem. Celui qui a l'Éternel pour Dieu a Dieu comme standard moral. Il a une référence absolue. Il peut connaître quel est le bien, quel est le mal. Il n'y a pas besoin de se forger une charte des valeurs. C'est Dieu, sa charte ultime des valeurs. Il a un standard, il n'est plus dans l'obscurité, dans un jugement relatif et qui change avec le temps. Celui qui n'a pas l'Éternel pour Dieu, comme Cam, bien, il n'a pas de standard ultime moral et inévitablement son standard moral va diminuer. Sa morale va être une chose qui va partir. Et dans le péché de Cam, ici, on voit justement le premier pas vers la déchéance, vers l'abandon de la morale. Et ça pousse inévitablement à vivre dans le péché. On peut se poser la question, pourquoi, si c'est Cam qui a péché, que Noé maudit Canaan? Ça a fait couler beaucoup d'encre, ça. Certains ont imaginé que peut-être Canaan était présent. Canaan, c'est le fils de Cam. Peut-être qu'il était présent et qu'il s'est moqué avec lui. Ouais, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ou d'autres ont supposé même qu'il s'était passé de l'inceste. Ou en tout cas, que... il y a toutes sortes d'histoires, mais la Bible ne dit pas cela. Là. On doit prendre ce qui est écrit seulement. Mais de toute façon, Cam n'a pas été épargné dans la malédiction parce que Dieu, lorsqu'il a maudit Canaan, il a maudit le fils de Cam. C'est la descendance de Cam qui est maudite. Et dans le fond, c'est une prophétie. Noé a prophétisé que les descendants de Cam, qui héritent de ce cœur mauvais et qui n'ont pas l'Éternel pour Dieu, allaient avoir des conséquences. Dieu ne punit pas une personne pour le péché d'une autre personne. On ne peut pas conclure, même si on dirait que c'est ça que ça dit, on ne peut pas conclure que Canaan a été puni à cause du péché de son père. Noé a dû voir, ben d'ailleurs c'est Dieu qui lui a révélé, mais que Canaan avait le même cœur que son père. Dieu dit dans Ézéchiel 18, « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du fils comme l'âme du père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. » Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père. Un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Certains vont se référer au commandement de Dieu dans Exode pour amener un contre-argument. Parce que Dieu dit, « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Mais ici, Dieu a spécifié qu'il punit ceux qui le haïssent. Il punit jusqu'à la troisième et la quatrième génération parce que les enfants même haïssent Dieu. Les enfants méritent cette punition. Peut-être qu'ils sont punis au nom de la faute de leur père, mais ils le méritent eux-mêmes parce qu'ils sont des enfants qui haïssent Dieu. S'ils se repentaient, si l'un d'eux se repentait, ils ne seraient pas punis. Dieu punit justement pour cela, c'est pour corriger, pour produire la repentance. Mais après plusieurs générations d'endurcissement, c'est comme si Dieu abandonne au péché, il livre au péché, comme il est dit dans Romains. Mais dans le fond, il livre au péché ceux qui se sont livrés eux-mêmes au péché, comme il dit dans Éphésiens. En fait, chacun a le choix, peu importe dans quelle famille il est né, peu importe la gravité du péché dans la vie de son père, chacun est responsable de son choix. Mais pour ceux qui aiment Dieu, là, il y a une différence, et qui lui obéissent, Dieu ne cesse jamais d'être bienveillant. Même il est dit sur 1000 générations. Dieu ne va pas se tanner. Génération après génération, tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui prennent Dieu, l'Éternel pour leur Dieu, Dieu les bénit et prend soin d'eux. Pour ses fils, mais Noé a agi à ce moment-là comme un prophète. Et on doit comprendre que Noé a vu que Canaan n'avait pas l'Éternel pour Dieu. Puis en maudissant Canaan, même on comprend plus loin lorsqu'on lit dans le texte, que Canaan, c'était aussi le nom d'un futur peuple. Dieu est en train de maudire le peuple de Canaan, les Cananéens. Si les descendants de Canaan sont condamnés à être esclaves à cause du péché de leur ancêtre, Canaan, mais c'est parce qu'eux-mêmes ont choisi d'agir comme leur ancêtre. Eux-mêmes ont suivi le modèle. Eux-mêmes ont rejeté. Et pourtant, ça leur était offert. Ils ont décidé, comme leur père, comme leur ancêtre, de rejeter Dieu. Puis c'est effectivement ce qui est arrivé. Canaan est devenu l'esclave d'Israël. Le peuple de Canaan, qui était corrompu, est devenu esclave du peuple d'Israël, qui est un descendant de Sem. Ça s'est passé après qu'Israël a pris possession du pays de Canaan. Donc, Noé a annoncé que l'humanité allait être divisée. Puis le chapitre 10 nous montre que ça a été effectivement divisé. Si on regarde Genèse chapitre 10, verset 1. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Des fils leur naquirent après le déluge. Des fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Yavan, Tubal, Méchec et Tira. Et les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat, Togarma. Les fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations dans leur pays, selon la langue de chacun, selon leur clan dans leur nation. Les fils de Cam furent Cush, Mitzrayim, c'est-à-dire Égypte, Put, Canaan. Les fils de Cush, Seba, Avila, Sabta, Raéma et Sabteca. Les fils de Raéma, Sheba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui le premier fut un vaillant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit « comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel ». Il régna d'abord sur Babel, qui est le même nom que Babylone, Érech, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. Ce sont là, de ce pays-là, sortit Assour. Il bâtit Ninive, la ville de Réobot, Cala et Resen, la grande ville entre Ninive et Cala. Mitzrayim engendra les Ludim, les Ananim, les Léabim, les Naphtouim, les Patroussim, les Kasluim, d'où sont sortis les Philistins et les Kephrotim. Si vous cherchez un nom pour votre futur bébé, vous avez le choix ici. Canaan engendra Sidon, son premier-né et Heth, et les Jébousiens ou les Yébousiens. Les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Avardiens, les Tsémariens, les Amatiens. Et ensuite, les clans des Cananéens se disséminèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome et de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cam, selon leur clan, selon leur langue, dans leur pays et dans leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assour, Arpakad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Ut, Ul, Geter, Mash. Arpakad engendra Shéla, et Shéla engendra Héber. Et il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shelef, Atsarmavet, Yéra, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ophir, Avila et Yobab. Tous ceux-là furent fils de Yoktan. Et ils habitèrent depuis Mécha du côté de Sephar, jusqu'aux montagnes de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur clan, selon leur langue, dans leur pays, selon leur nation. Voilà les clans des fils de Noé, selon leur lignée, dans leur nation. C'est à partir d'eux que les nations se sont réparties sur la terre après le déluge. Ce tableau généalogique ici, qui peut paraître optionnel à lire, là, mais est important. Parce que ceux qui croient que la Bible est l'histoire uniquement des Juifs, mais se trompe, c'est l'histoire de toute l'humanité. C'est vrai que le focus est mis à partir d'Abraham sur l'histoire d'Israël, mais on voit que toutes les nations viennent d'une même origine. Dans Actes 17, Paul dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur toute la face de la terre. » Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver, si possible, en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous. car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce passage historique est précieux parce qu'il nous montre que la Bible est l'histoire de toute l'humanité. L'humanité qui est perdue, mais que Dieu aime et dont chaque individu a le choix d'aimer Dieu ou de le rejeter. Chaque individu dans toute l'humanité peut être un homme dont l'Éternel est son Dieu. Toutes les nations qui ont existé ne sont pas listées. Donc, ce n'est pas une liste qui inclut toutes les nations qui ont existé sur la terre. Mais c'est intéressant de voir que pour les premiers lecteurs, à l'époque où Moïse l'a écrit, pour les Juifs, c'était toutes les nations qu'ils connaissaient. Donc, pour eux, le message était très clair. Toutes les nations viennent de Noé. Seuls les descendants de Canaan ont reçu cette malédiction d'être des esclaves des descendants de Sem. Mais Cam avait plusieurs fils aussi. Canaan était l'un d'eux, mais on voit que tous les descendants de Cam, qui a péché contre Noé, ont mal tourné. Et c'est d'eux qui sont sortis les nations, les villes méchantes. C'était la loi de la jungle, la loi du plus fort. Puis même les recherches archéologiques le confirment lorsqu'on trouve des écrits sur des tablettes, des pratiques qui se faisaient dans tous ces peuples. C'était des choses horribles. Les descendants de Cam sont sortis des villes dont les nations abominables dans leur méchanceté, où ils se pratiquaient des sacrifices d'enfants, des viols collectifs, toutes les formes possibles de sexualité, hors mariage, toutes sortes d'horreurs. De là est sorti Canaan, Égypte, Babylone, la Syrie, Ninive, les Philistins, Sodome et Gomorre, tous des descendants de Cam. Et dans Lévitique, Dieu dit à son peuple, « Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez pas leurs principes. Vous ne pratiquerez pas mes ordonnances. Vous pratiquerez mes ordonnances, pardon, et vous garderez mes principes. Vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et vous ne ferez pas comme eux, comme les descendants de Cam. » Et pour le peuple de Dieu aujourd'hui, l'Église, le commandement est le même. On lit dans 1 Jean 2, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Il ne peut pas dire « L'Éternel est mon Dieu. » Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais même là, on voit que Dieu n'a pas fermé la porte aux descendants de Cam. Et on a vu quelques conversions même des descendants de Cam dans la Bible. Rahab, la Cananéenne, a été sauvée. Et même, c'est intéressant de voir qu'elle figure parmi la généalogie des ancêtres de Jésus lui-même. Wow, on voit toute la grâce. Une femme qui était sous la malédiction a été graciée. La femme cananéenne, même à l'époque de Jésus, à qui va supplier Jésus, et Jésus guérit sa fille. Une cananéenne. Donc la grâce de Dieu a toujours été disponible pour ceux qui se tournent vers lui. Sem ici est présenté comme le père de tous les fils d'Héber. C'est dit rapidement là, dans la généalogie. Sem, dont le petit-fils est Héber. Pourquoi spécifier cela? Mais Héber, c'est le même mot que hébreu. Tous les fils d'Héber, dans le fond, c'est les Hébreux. Le peuple béni de Dieu, le peuple des Juifs, sont des descendants du petit-fils de Sem. Et pour les premiers lecteurs, ceux qui lisaient ça, les Juifs, là, ça parlait fort pour eux. Et éventuellement, Dieu allait leur demander d'entrer dans la terre promise et de tasser Canaan de là et de ne pas suivre ses pratiques. Donc, c'était un texte très parlant. Spirituellement, Dieu est présenté dans le Nouveau Testament comme le Père, comme Sem était le Père du peuple béni. Dans le Nouveau Testament, Dieu lui-même est présenté comme le Père du peuple spirituel, de l'Église. Et Satan est présenté comme le père des fils de la perdition. Puis Sem aussi est présenté comme le frère de Japhet. Il n'est pas dit frère de Japhet et frère de Cam, mais frère de Japhet. Ça aussi, c'est intéressant. Japhet avait été béni pour être prospère. Dans la traduction Colombe, il dit que sa bénédiction, c'était d'être au large, mais que son territoire s'élargisse, qu'il soit prospère. Et c'est d'ailleurs les descendants de Japhet qu'on voit, des descendants de Japhet qu'on voit les peuples qui se sont éloignés le plus, qui ont prospéré. Mais sa bénédiction était en Sem. dans les tentes de Sem, c'est-à-dire qu'il serait béni en Sem. On peut supposer que déjà là, Dieu est en train d'ouvrir la porte là, à ce qu'il allait promettre à Abraham, pas longtemps après, que toutes les nations allaient être bénies en Abraham, dans le peuple d'Israël. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, tous les descendants de Japheth. C'est impressionnant de voir le plan unique de Dieu qui s'accomplit. Et les nations qui n'ont pas été ennemies à la nation d'Israël ont effectivement été bénies à cause d'elle. Puis même, on voit des gens de plusieurs nations qui se sont convertis, qui sont devenus juifs. On le voit dans l'histoire d'Esther et dans d'autres histoires aussi. On peut comprendre aussi même que par le Nouveau Testament, que même cette promesse-là a un effet jusqu'à aujourd'hui. La promesse d'Abraham s'est accomplie dans les croyants des nations. Donc, dans les croyants de toutes les nations, la promesse d'Abraham s'est accomplie dans le sens qu'ils se sont unis aux croyants d'Israël. Ils ont été bénis en Israël pour former le nouveau peuple spirituel de Dieu, l'Église. Jésus, qui est le fondateur de l'Église, le sauveur du monde, est un descendant de Sem. Les descendants des trois fils de Noé ont été divisés en différentes nations. Une autre indication qui montre cela qu'ils ont effectivement été divisés, c'est qu'ils parlaient chacun leur langue, chacun dans leur nation. Mais ça, on va le voir la semaine prochaine avec Pasteur Johnny, comment ça s'est passé, parce que le chapitre suivant fait comme un retour en arrière et nous montre comment ça s'est passé, ça, qu'il y ait plusieurs langues. Parce qu'à l'époque de Noé, tous parlaient la même langue. Mais ça, on voit que c'était dans le plan de Dieu que les nations se séparent, soit divisé. Et en fait, ça s'est passé au temps de Péleg. C'est au verset 25 qu'il est dit, « Il naquit à Héber deux fils, le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée. » Ça, c'est quelque chose d'intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Il y a des chercheurs, aujourd'hui, créationnistes, qui essaient de voir, qui font des recherches archéologiques pour voir s'il ne s'agirait pas ici de l'époque où il y a eu la... Comment on dit ça? La dérive des continents, où littéralement la Terre a été divisée. Mais c'est intéressant de voir la démarche. Le nom de Péleg est utilisé à 10 autres endroits dans la Bible, et à chaque fois, c'est pour désigner un cours d'eau, un cours qui sépare deux terres. Puis l'explication qu'ils proposent, les créationnistes, c'est qu'à l'origine, il y avait un seul continent, ce qui explique que des animaux de toutes les races ont pu venir sur l'arche, et que les hommes ont pu, après au déluge, se répartir sur toute la terre, et que la dérive des continents se soit passée à l'époque, justement, où après la tour de Babel, lorsque les gens se sont répartis, les continents ont commencé à dériver, mais de manière beaucoup plus rapide que la science nous dit aujourd'hui. C'est une explication qui semble faire du sens, là. Ça expliquerait pourquoi il y a des Amérindiens, des Incas, Mayas, des Australiens. Puis si on croit la Bible, ils viennent tous de Noé, eux autres aussi. Ça pourrait expliquer aussi pourquoi plusieurs peuples ont eu la même idée de construire des pyramides qui s'élèvent vers le ciel. Ce serait comme un remake là, de la tour de Babel. Mais c'est difficile à prouver ou à démontrer bibliquement, mais je trouve ça intéressant. D'ailleurs, il n'est pas dit qu'à l'époque de Péleg, les hommes furent divisés ou les nations furent partagées. Mais c'est dit la terre fut partagée. On peut peut-être voir un double sens. La terre a peut-être été littéralement partagée à cette époque. D'ailleurs, il est dit des fils de Japheth que c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations dans leur pays, selon la langue de chacun, selon leur clan dans leur nation. Mais de toute façon, peu importe la manière dont les peuples se sont répartis, on croit que tous ont une même origine. Toutes les nations ont une même origine. Il y a plusieurs nations, mais il y a un seul Dieu. L'Éternel, le Dieu de Noé, le Dieu de Sem. Et il y a un seul plan pour toute l'humanité. Voir que Dieu a accompli ce qu'il a annoncé. Parce qu'on voit dans chapitre 9 qu'il l'annonce, et dans chapitre 10, on voit qu'il l'a accompli. Voir cela, ça peut contribuer à nous donner l'assurance qu'il va effectivement accomplir ce qu'il a annoncé pour la fin des temps. Dans Ésaïe 49, Dieu dit « Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine, l'homme qui accomplira mes projets. Ce que je dis, je le fais arriver. Ce que j'ai conçu, je l'exécute. Et ce plan de Dieu inclut tous les hommes, ceux qui croient en lui, ceux qui lui obéissent et ceux qui le rejettent. À la base, tous les hommes sont pareils, tous ont un cœur pécheur. Mais même ceux qui croient en Dieu et qui lui obéissent, il arrive encore de pécher. C'est pour ça qu'un jour, on va tous mourir aussi. Notre cœur de pécheur ne nous a pas été enlevé. Nous sommes tous dans le même sort, mais on a deux destinées. Mais prenons garde à ne pas mépriser aucun qui est tombé dans le péché. Ce serait manquer de respect à Dieu lui-même. Prenons garde aussi à notre propre cœur. Ne levons jamais la garde. Visons ne pas imiter le monde, mais à être saint, sans défaut. C'est là la volonté de Dieu. C'est là son plan. Et je conclue par lire un texte qu'on a lu ce matin dans Éphésiens, qui est la volonté de Dieu qu'on voit pour toutes les nations, en particulier pour son peuple, pour l'Église. Dans Éphésiens 1, verset 4. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, qui n'est pas Noé, sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire qui d'avance, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen.